Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode exceptionnel car nous recevons un invité exceptionnel que vous connaissez si vous travaillez depuis quelques années dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information puisqu'il s'agit d'Hervé Schauer. Alors, pour discuter avec Hervé ce soir, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Éric Leblon.
Bonsoir.
Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Hervé, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup de participer à cet épisode avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Est-ce que tu peux te présenter et nous indiquer dans quelles circonstances tu es venu à travailler dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ?
Moi, je suis consultant en sécurité depuis un peu plus de 26 ans. J'ai fait des études d'informatique. Pendant ces études, j'ai monté un serveur web avec mon propre logiciel et ma propre infrastructure. Un serveur web. Elle est bonne. Non, j'ai monté un serveur Minitel. Ma propre connexion X25, ma propre config, mon propre logiciel. Historiquement, ce serveur Minitel s'est fait pirater. Et je pense que je me suis vraiment intéressé à la sécurité à ce moment-là, lorsque ce serveur s'est fait pirater, juste un week-end où j'étais parti me reposer, comme toujours. Je suis entré en contact avec le pirate, qui était Furax à l'époque. Puis j'ai rencontré plein de pirates, je me suis beaucoup intéressé comme ça à la sécurité. Et j'avais décidé de faire mes serveurs Minitel sous Unix, alors que c'était pas du tout un système que j'avais pu voir durant mes études, mes stages, les choses comme ça, parce que j'avais considéré que c'était le meilleur système pour faire du Minitel. Et naturellement, par la suite, j'ai fait ça en 86. Et puis en 87, il y a eu la création d'un groupe de travail sur la sécurité Unix au sein d'une association. J'ai participé dès la première réunion. Je me suis retrouvé animateur au bout de 2 ans. Et aujourd'hui, ça existe toujours, c'est l'OSIR. Donc en fait, c'est au travers de ce groupe de travail que j'ai vu qu'il pouvait y avoir finalement un business. Et après le Minitel, j'ai fait de la documentation. Et puis, après les logiciels de gestion de documentation, j'ai décidé de me mettre à mon compte à plein temps sur la sécurité en lançant une formation en sécurité début 89, à l'époque sur la sécurité Unix. Et puis après, j'ai étendu sur la sécurité TCP/IP. Et puis, bien sûr, après, en 94, il y a eu une explosion de l'Internet, avec ce que vous connaissez un peu plus aujourd'hui.
Tu veux dire que tu es venu à la sécurité, tu t'es intéressé à la sécurité après avoir été victime d'une intrusion, c'est
absolument.
C'est une morale pour les CEO, les CEO modernes.
Je pense pas. Les circonstances étaient différentes à l'époque. Il faut se souvenir que en 86, on avait accès absolument à tous les VAX de France qui étaient sous BSD 4.2 puis 4.3. Il y avait toujours un compte guest. La seule fonction que l'on avait sur les réseaux X25, c'est la fonction PAD qui correspond à notre Telnet actuel. Et donc, on pouvait faire l'équivalent du Telnet, login guest, mot de passe guest, et les invités étaient toujours les bienvenus sur tous les Unix de France et de Navarre. Et donc, que ce soit le Gréco de programmation à Bordeaux, Géocube, que ce soit le CNAM à Paris et bien d'autres, tout le monde se baladait d'Unix en Unix, et c'est comme ça qu'on pouvait discuter en ligne avec les administrateurs. C'était quand même une autre époque hein, par rapport à la situation actuelle. Mais c'est vrai que Furax, lui, piratait les serveurs Minitel à des fins mercantiles. Son objectif, c'était de gagner les cadeaux qu'on pouvait avoir sur le 3615, non pas en passant par le 3615, mais en passant directement par les réseaux X25 en piratant les serveurs de manière native. Ça lui avait permis de voir que même en donnant toutes les bonnes réponses au jeu, on ne gagnait pas les cadeaux, parce que bien entendu, les jeux étaient truqués. Donc, il s'est aperçu que la seule solution, c'était de falsifier le fichier des gagnants, juste dans la minute qui précédait l'intervention du fameux huissier qui était toujours nécessaire dans ces jeux de hasard. Et donc, en fait, en piratant le fichier, en falsifiant le fichier juste avant l'huissier, il arrivait enfin à ses fins et à gagner. Le problème, c'est qu'un jour, malgré tout, la police a débarqué chez lui pendant qu'il était en ligne. Et en plus de ça, il y avait 8 télés, 5 chaînes IFI. Il avait donné les voyages qu'il avait gagnés à toute sa famille. Donc, il n'était pas du tout discret dans ses actions. Et donc, voilà, il a fini avec pas mal de difficultés avec la justice. Enfin, c'est assez logique. Mais c'est vrai, c'est lui qui avait intrusé mon savoir Minitel. Alors, pour l'anecdote, c'était 3615 Diox. Diox en référence à Dioxine Forum Pirate, qui était un forum pirate sur le Multix de l'université Jussieu. Et c'était lui-même en référence à la dioxine qui était le truc du moment dans les années 80 avec une émission sur Carbone 14 qui était une des premières radios libres. Voilà, enfin. Et oui, et ça ne nous rajeunit pas tout ça.
Ça va, il y a quelques RSSI qui nous écoutent, donc ils sauront de quoi on parle.
Oui. Bah, service Minitel pour les RSSI, où il y a de l'idée là. On tient. Un service de veille technologique pour les RSSI sur Minitel.
Je rappelle que le X25 a complètement fermé il y a quelques années. Et les derniers services, notamment les services bancaires qui s'en servaient, ont été obligés de migrer sur IP avec tous les problèmes de sécurité associés.
Et ils l'ont fait ou pas? Il n'y a, plus de X25 en France.
Ah, il peut y avoir encore quelquefois du X25 encapsulé dans IP pour des choses que l'on ne sait absolument pas porter. Mais il n'y a plus de réseau X25. Non, c'est fini.
C'est pour ça qu'Alcatel-Lucent a autant de problèmes.
Vous aviez dit qu'on ne citait pas les marques.
C'est 10 euros. 10 euros, Nicolas.
C'est pas le cours de l'action, ça.
Écoute. Et donc, comment est-ce que tu vois l'évolution de la sécurité
Pour les gens qui font de la sécurité depuis longtemps, ce qu'ils voient, c'est surtout aucune évolution. C'est-à-dire que la vraie difficulté, c'est de voir que rien ne change, que même si on a des nouveaux outils technologiques avec une magnifique ergonomie, on fait perpétuellement les mêmes erreurs d'organisation, de programmation, de conception, et quelque part, les choses sont un éternel recommencement. Moi, je salue des initiatives récentes qui cherchent à changer les comportements des programmeurs. La NSSI dépense beaucoup d'argent en ce moment là-dessus, mais je me souviens de tous nos efforts, alors c'était dans les années 80, où on avait réussi à changer les programmes dans plusieurs écoles d'ingénieurs pour que les programmeurs apprennent à programmer correctement dès le départ. Bon, malheureusement, ça a tenu 2-3 ans et encore dans une seule école. Et dès qu'il y a eu un changement de prof, ça s'est effondré. Voilà, aujourd'hui, on essaye à nouveau de changer les comportements et on en est toujours rendu au même point. Donc, l'un dans l'autre, compte tenu du fait que la technologie, la connectivité évolue très fortement vers de plus en plus, bon, ben, résultat, on a toujours des failles. Et parfois, les failles d'aujourd'hui sont un petit peu plus communicantes, hein, parce qu'elles sont un petit peu plus spectaculaires que ce que ça pouvait être le cas quand on se connectait sur les Prime OS, les VMS ou les VMCMS du début des années 80. Mais fondamentalement, rien n'a changé. La sécurité dès la conception, on en est généralement très loin.
Et tu ne penses pas justement que s'il y a une évolution, elle est en faveur des attaquants ? Je veux dire que le périmètre, les surfaces de vulnérabilité deviennent de plus en plus importantes. Les attaquants. Alors,
il faut aussi voir que le périmètre des défenseurs a aussi énormément changé. Il y a aujourd'hui des compétences qui sont bien meilleures que celles qui étaient il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et donc, il y a aussi une capacité à se protéger, qui a évolué de la même façon. Donc, est-ce que véritablement les attaquants ont plus de facilité aujourd'hui ? Non, parce que dans le contexte de chaque époque, les attaquants ont toujours eu beaucoup de facilité. La vraie différence, c'est les conséquences. Ce sont les conséquences. Il est clair que on pouvait, quand on se souvient des affaires qu'il y a eu dans les années 80, Riborel, etc., les conséquences étaient finalement pas dramatiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer des compétences qui, au sens de la société, sont plus graves que ce qu'on pouvait avoir dans le passé. Donc les conséquences peuvent être plus graves, mais la capacité des attaquants à attaquer, elle a toujours existé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attaquants qu'avant, mais oui, mais il y a aussi beaucoup plus de choses à attaquer qu'avant, et il y a infiniment plus de défenseurs. Donc de ce point de vue-là, moi, j'ai pas l'impression de sentir l'évolution. J'ai vécu l'époque où on comptait les consultants en sécurité sur les doigts de la main. Aujourd'hui, on les compte par milliers. Donc les choses ont évolué en proportion.
Ouais, enfin, est-ce qu'il y a vraiment des milliers de professionnels compétents en sécurité aujourd'hui en France? Parce que tu sais, c'est un peu
si la question est
la fonction qui a besoin.
Est-ce que j'arrive à recruter des gens compétents? La réponse est non. C'est vrai qu'on manque de gens compétents, mais c'est surtout des gens motivés. Aujourd'hui, on trouve des gens sur le marché qui viennent de secteurs dans lesquels il n'y a plus autant besoin d'ingénieurs que par le passé. Je prends par exemple l'exemple des télécoms. On peut simplifier les choses en disant que les télécoms deviennent de l'informatique, hein, radio, logiciel et compagnie. Il n'y a plus besoin des compétences qu'il pouvait y avoir dans le passé en matière télécom. Ben, la difficulté, c'est que on aimerait bien recycler les ingénieurs télécoms dans la sécurité, mais ils ne sont pas tous motivés par le sujet, ils ne sont pas tous passionnés par le sujet. Résultat, voilà, on n'arrive même pas à profiter de cette matière grise. Et même dans les jeunes qui sortent des écoles, il y en a parfois qui se mettent dans la sécurité parce qu'on leur a dit que ça rapportait de l'argent, mais dès l'instant qu'ils n'ont pas la passion du sujet, ils seront mauvais dans leur carrière. Il n'y a pas de miracle. Après, moi, je fais face actuellement à des consultants qui fuient à l'étranger. Il est clair que l'évolution de la société en France, que ce soit par la loi, la fiscalité et tout un tas d'autres éléments, ben, les moins de 30 ans, aujourd'hui, je les vois, en tout cas ceux de chez moi, je les vois émigrer dans d'autres pays qui leur semblent plus favorables pour leur vie future. Et ce sont bien entendu les meilleurs.
Tu parles de la Suisse, là ou...
Non, je ne parle pas du tout de la Suisse. Je parle de pays en dehors de l'Europe. Non, les gens chez moi, ils vont plutôt en Australie et aux États-Unis. Hein.
Ouais, l'Australie, c'est facile parce que tu as le Working Holiday Visa. Donc, quand tu as moins de 30 ans, tu peux y aller comme tu veux pour travailler. Par contre, les États-Unis, au niveau visa H1B et tout ça, ils ont quand même mis un peu la holà, quoi. Enfin, c'est pas aussi simple que ça d'aller bosser aux États-Unis pour une boîte américaine.
Je reconnais, j'en ai qu'un qui va partir aux États-Unis. Je crois que je vais être à mon 6e ou 7e en Australie.
Oui. Bon, après, tu crois pas que ces gens-là, ils vont se former en Australie, puis après, ils reviendront en France?
Pas du tout. J'en ai un qui est revenu, qui a monté sa boîte, qui marche très très bien en France. Mais si on prend le 2e, le 3e, le 4e, bah, le 2e est devenu australien. Sa boîte en Australie marche très bien. On sent quand même qu'il y en a une majorité qui sont complètement perdus pour l'économie qui leur a permis d'éclore. Je dis pas que certains reviendront pas. Moi, j'ai aussi des enfants d'immigrés que j'ai eu chez HSC qui sont partis en Australie et donc ont complètement bénéficié de l'éducation et de l'ascenseur social du système éducatif français et qui en font profiter aujourd'hui l'Australie. Alors après, bon, j'ai la chance aujourd'hui d'être filiale d'une grande entreprise, donc je peux passer par les procédures pour embaucher les étrangers, étrangers au sens extra-communautaire. Et donc de la même manière que les Français fuient en Australie, les Africains fuient en France. Donc, on a la possibilité d'embaucher des Africains chez nous.
Mais après, c'est ton côté koala. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de gens qui partent en Australie.
Oh, si, si.
Alors, je suis désolé. Non seulement, moi, j'ai 6 ou 7, je ne sais plus exactement, HSC. Donc, je rappelle, hein, pour une société de 31, 32 personnes, j'en ai 6 ou 7 en Australie. Bon, ceci dit, j'en ai 11 à la NSSI. Donc, il y a pire que l'Australie.
C'est ce que tu disais, il faut porter l'eucalyptus devant sur le parvis de la NSSI. Ouais.
Mais si tu veux faire quelques recherches sur Internet, tu verras qu'il y a aussi des consultants Solucom qui sont partis en Australie. C'est simplement un pays en croissance dans lequel il y a un manque d'informaticiens, particulièrement en sécurité, que lorsque tu as le visa des moins de 30 ans, tu es dans la légalité alors que tu es employé comme consultant, et c'est à la charge de ton employeur de se mettre en conformité avec la législation et pas à toi en tant qu'employé. D'ailleurs, c'est un visa auquel les Suisses n'ont pas accès. C'est un accord qui est uniquement entre l'Australie et certains pays, dont la France, mais pas la Suisse. Donc les Suisses ne peuvent pas fuir en Australie, eux, alors que les Français peuvent. Donc, moi, j'ai vu aussi des Solucom et d'autres sociétés fuir en Australie. Donc, je veux dire, il n'y a pas que les gens de chez HSC qui vont en Australie. Alors après, on peut dire s'il y en a un peu plus de chez HSC, peut-être parce qu'ils sont un peu meilleurs, je sais pas, mais ce serait abusé de ma part de prétendre ça.
C'est parce qu'ils parlent mieux anglais ?
Non, j'ai des consultants qui n'étaient pas extraordinaires en anglais. Et justement, un des prétextes pour aller travailler en Australie était de progresser en anglais. Effectivement, c'était une bonne raison. C'est toujours bon de travailler quelques années dans un pays anglo-saxon, à condition de revenir. Pour l'instant, le premier est revenu et a monté sa société en France. Les suivants, à ma connaissance, ils n'ont pas planifié encore leur retour. Si retour, il y a un jour.
Est-ce que c'est pas un peu symptomatique de la dépression du marché de la sécurité en France ? Enfin, je veux dire, globalement, on fait toujours les mêmes erreurs depuis 30 ans, les salaires stagnent, la perception de l'informatique dans les entreprises n'a pas changé. D'ailleurs, l'informatique est toujours perçue comme un centre de coûts qu'on va pouvoir externaliser facilement. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gens partent, non ? Est-ce qu'on peut encore faire des affaires en sécurité en France ?
C'est toi qui l'as dit. Maintenant, il y a un marché partout. Il y a des marchés partout. Maintenant, moi, je me contente de mon petit marché français ou francophone, simplement parce que ça me fatigue de parler anglais. Et puis, je suis habitué à mon marché français. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir former les gens. Donc, je prends des jeunes, je prends des gens en reconversion et puis je prends le temps de les former pour trouver des consultants, mais c'est vrai que le recrutement est vraiment pas facile. En termes de salaire, franchement, les salaires, ils ont quand même augmenté en France. Il y a vraiment une inflation des salaires, quand même.
Mais je croyais que le prix des prestations baissait, donc comment tu peux augmenter les salaires de l'autre côté ?
Eh bien, tu as plusieurs solutions. Soit tu considères que c'est une activité frime qui te permet de communiquer et donc tu fais à perte, soit en réalité l'activité de consulting est une activité qui est, je rigole parce qu'il y a Eric Lemion qui dit « tu changes pas de laptop ». Non, je vais changer parce que là le disque dur est en train de mourir, mais je suis très fier de me servir de mon ordinateur au lieu de passer du temps à ce qui me serve à quelque chose. Et donc j'utilise toujours effectivement un ordinateur 2006. L'intérêt que j'y vois, c'est que je pense qu'en 2006, il n'y avait pas tous les outils d'espionnage sur les processeurs annexes comme le processeur vidéo, le processeur d'entrée-sortie ou le processeur du contrôleur de disque dur, comme il y a sur les systèmes existants. Donc, je me dis que j'ai peut-être moins de code de la NSA dans ce vieil IBM que dans un Lenovo récent. C'était quoi la question déjà ?
La question, c'est comment tu fais pour augmenter les salaires ? Enfin, pour rendre les carrières en sécurité plus attractives, en fait, parce que c'est pas seulement
une question de salaire. Il faut avoir une autre activité. Il y en a qui font de la veille. Moi, je fais de la formation. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés de sécurité ont développé des produits. Regarde les petits produits de décontamination de clés USB. Finalement, toutes les boîtes qui étaient des boîtes de conseil deviennent des éditeurs et des fournisseurs de produits. Sinon, ce sont devenus des sociétés qui font de l'infogérance, des choses récurrentes de type gestion de logiciels, supervision, SOC. Et finalement, dès que tu fais du récurrent, que tu factures très cher chaque mois, moi, je vois des gens qui facturent plusieurs fois le coût d'un test d'intrusion par mois pour la supervision de la sécurité de petites organisations. Bon, c'est sûr, vu l'argent qui tombe tous les mois, là, on comprend que ça fasse de la marge. Et finalement, l'activité conseil-expertise est vue comme un paravent qui permet de vendre des activités récurrentes, lucratives derrière. Il y en a d'autres qui sont lancés dans l'hébergement de haute sécurité avec un magnifique contrôle applicatif en amont pour permettre à des CMS mal programmés et mal conçus d'être quand même protégés. Et voilà, et ça, ce sont des business qui rapportent beaucoup. Pourquoi vous rigolez ? C'est vrai.
Non, mais c'est le principe, tout le monde veut faire du récurrent, que ce soit dans l'édition logicielle, le cloud, les choses comme ça, ou le SOC.
Voilà, moi SOC, non, c'est... moi je suis une société qui part à zéro tous les 2-3 mois et qui n'a aucune visibilité à moyen et encore moins à long terme. Et effectivement, je vis comme ça depuis 26 ans et demi. C'est le métier de l'expertise. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi Deloitte, sachant que en dehors de deux cas, toutes les sociétés qui m'ont sollicité et qui m'ont fait des offres étaient toutes des SS2I.
C'est quoi Deloitte ? C'est pas des SS2I ?
Non, Deloitte, c'est un fat four, c'est-à-dire que c'est un cabinet de commissariat aux comptes et d'expertise comptable. Donc, ça fait partie des quatre grands cabinets. Il a la caractéristique d'être du bas vers le haut, c'est-à-dire que c'est une société qui est détenu par des associés qui sont locaux. Donc en France, ce ne sont que des associés français qui détiennent l'entreprise. Et les gens qui sont dans les différentes instances de direction sont élus par les autres associés, enfin une partie des associés, parce que quand on est associé débutant, on n'a pas encore le droit de vote, puis après on a un demi-droit de vote. Donc je disais que Deloitte France, c'est uniquement des associés français, Deloitte Luxembourg que des associés luxembourgeois, Deloitte UK des associés anglais, voilà. Et tous ces gens-là sont simplement réunis dans un réseau. Donc ne coupez pas, s'il vous plaît, ce réseau, hein, il est réuni dans une association. Alors association est une mauvaise traduction d'un mot très spécifique au suisse-allemand que je ne saurais reproduire ici. Vous savez qu'on trouve dans la région de Zurich, là, vers Zug. Voilà, et donc ça permet de partager la marque, de partager des moyens. Donc chacun paye sa cotisation et ça permet d'avoir la puissance d'un réseau mondial tout en ayant des entreprises complètement locales, contrôlées localement, qui sont pleinement impliquées dans l'économie locale de leur pays. Donc Deloitte en France est une entreprise pleinement souveraine.
D'accord. Alors, quelles sont les autres raisons qui t'ont fait rejoindre Deloitte ?
Alors, il y a le fait que c'est une entreprise qui a l'expertise et la mission courte dans le sang. On n'a absolument pas de gens qui font des missions longues, hein, ce qu'on appelait des régies dans le passé, mais qui aujourd'hui ont été transformées en des missions longues, où les gens sont 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans chez un client. On va faire des missions courtes d'expertise, même si elles durent dans le temps. On intervient uniquement de temps en temps chez le client pour l'aider à avancer, à faire les choses, ou alors on fait des audits qui durent d'une journée à 2 semaines, et donc qui sont toujours des missions courtes. Et vraiment, un des avantages de Deloitte par rapport à mon équipe qui est souvent venue chez HSC précisément pour faire des missions courtes et qui ne souhaitent pas faire des missions longues, sinon ils auraient pu aller dans les sociétés de services, ça allait beaucoup mieux pour la pérennité, la continuité de mon équipe. Après, bon, il y a aussi des raisons géographiques. Il y a beaucoup de sociétés qui étaient à des endroits beaucoup plus éloignés de là où on était avant. Hein. On était à Levallois, donc il y avait quand même beaucoup de consultants qui s'étaient organisés pour habiter pas trop loin. Donc, en passant de Levallois à Neuilly, on n'a pas un gros changement. Nous, on a un centre de formation qui fait presque la moitié du chiffre d'affaires. Donc, l'emplacement géographique du centre de formation, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, bon, il y a certaines SS2I qui ne sont pas aussi bien placées vis-à-vis des transports que ce que l'on peut trouver ici. Après, il y a l'aspect, bien sûr, sur l'aspect patrimonial pour moi. Là, c'est très difficile de comparer les différentes offres puisque Deloitte va donner du cash là où les SS2I vont donner une part plus ou moins importante en action. Donc là, de ce point de vue-là, moi, je considère que j'ai joué la sécurité. Après, il y a le projet. C'est vrai que dans une SS2I, les gens font des départements conseils, ont beaucoup d'ambition. Maintenant, est-ce que leurs ambitions sur la sécurité, sur la formation, sur l'indépendance de ce département qui fait de la sécurité et de l'expertise va durer au fil des années? C'est parfois difficile à anticiper dès que l'on se projette au-delà de 3-5 ans. Deloitte a développé la cybersécurité dans d'autres pays. C'est devenu un relais de croissance pour Deloitte dans ces autres pays. Ça a connu un énorme succès. Ils ont la cybersécurité qui marche très bien aux États-Unis, au Canada, où au Canada ils ont fait plein de formations, ça marche super bien. Et donc la France a décidé de pas vraiment innover, mais de justement faire la même chose et a pour objectif de devenir un acteur majeur de la cybersécurité en France. Et là, bon ben, un dîner, deux dîners, trois dîners, quatre dîners avec des gens de plus en plus importants. Voilà, ils m'ont séduit, ils m'ont persuadé parce que moi j'ai l'intime conviction qu'il y a un vrai projet. Et l'avantage que j'y vois, c'est que c'est une entreprise française comme beaucoup d'autres en France qui sont vues aujourd'hui comme les leaders français de la sécurité des systèmes d'information. Mais l'avantage de Deloitte, c'est qu'on peut s'appuyer sur un réseau planétaire qui couvre la totalité des pays de la planète. Donc, on pourra faire une véritable différence par rapport à ces acteurs français qui sont, eux, dans quelques pays d'Europe en général et qui n'ont pas du tout la même couverture que peut avoir Deloitte. Donc, je reconnais qu'aujourd'hui, en ajoutant HSC et les équipes sécurité qui est chez Deloitte, ça fait à peu près 45 plus 30, donc ça reste petit par rapport à d'autres acteurs. Mais l'ambition, c'est de grossir et de couvrir, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais de couvrir l'ensemble des services qu'on peut proposer en sécurité des systèmes d'information et de devenir un acteur majeur. Bon, c'est aussi un projet qui est très enthousiasmant et qui, évidemment, m'a fait choisir Deloitte.
Tu as eu vraiment beaucoup d'autres offres intéressantes, enfin, qui peut...
Alors, quand tu as des offres où on te donne des actions, tu as plusieurs manières de valoriser les choses. Tu pars du principe que ça va stagner, que de toute façon, une société de service, ça se valorise toujours de la même manière. Il y a des techniques pour ça et c'est jamais extraordinaire. Et puis, tu peux aussi te dire que bon, il y a quand même des risques. Les sociétés de services ont des hauts et des bas et donc ça peut s'effondrer. Ou alors, tu crois la présentation qu'on te fait. Et dans la présentation qu'on te fait, bien entendu, tes actions vont valoir de plus en plus au cours du temps. Donc, c'est toujours un peu difficile de faire des comparaisons. Maintenant, moi, j'étais pas obligé de vendre. J'ai simplement été beaucoup sollicité lorsque j'ai fait quelques bêtises financières. Et je me suis surtout rendu compte, en étant beaucoup sollicité par beaucoup de monde, qu'une fois que tu as éliminé tous ceux qui veulent te racheter gratuitement, bon, ceux-là, je les compte pas, une fois que tu as éliminé tous ces gens-là, tu es face à des gens qui sont en fait en train de discuter avec tout le monde. Et moi, ce que j'ai surtout découvert, c'est que beaucoup de sociétés essayaient de se vendre, et que même celles qui essayaient pas de se vendre, étaient comme moi, elles avaient été sollicitées pour se faire racheter, et finalement, elles ouvraient des discussions. Et donc, aujourd'hui, il y a très 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 peu d'opérations qui sont faites. Hein. Si vous regardez, alors on peut considérer que Bull, Atos, c'est une opération en sécurité, puisque il semblerait que ce soit la sécurité de Bull qui intéressait Atos, mais derrière, on n'en a pas eu 50. Hein. Canal Networks, repris par Arismore. Récemment, on a eu Clésis repris par Econocom Osiatis. Encore plus récemment, on a Apsys qui a été repris par Soducom. Et puis, un peu avant, on avait eu Akerva repris par Alten. Moi, je peux vous dire qu'au vu de toutes les discussions que j'ai eues, de tous les projets que j'ai vus, c'est très, très, très peu d'opérations par rapport à la quantité de discussions qu'il y a en cours actuellement. Et donc, il y a énormément de gens en vente, énormément de gens qui cherchent à acheter. Aujourd'hui, Deloitte, pour faire de la croissance, il a à la fois besoin de recruter, mais il a aussi besoin de pouvoir acheter des entreprises pour gagner plus rapidement une expertise qu'il n'a pas encore, une équipe qu'il n'a pas encore, Voilà, et tout le monde cherche à faire de la même façon. Alors évidemment, il y a beaucoup de PME qui en profitent pour demander des valorisations qui n'ont aucun sens et des valorisations qui sont complètement disproportionnées par rapport à la véritable valeur de l'entreprise. Peut-être que moi, j'ai accepté une valorisation entre guillemets proportionnée par rapport à la valeur de mon entreprise. Mais je pense que de toute façon, le marché va de toutes les manières se structurer. Et il y aura toujours des créations de nouvelles entreprises et ces nouvelles entreprises finiront un jour par être achetées par des plus grosses qui chercheront toujours à grossir. Donc, de toute façon, on est rentré dans un cycle où il y aura régulièrement des rachats de sociétés.
Et est-ce que tu penses que des trucs comme le P10, etc. de la NSSI vont pas, ou le PACI, vont pas accélérer cette tendance?
Aujourd'hui, les qualifications de la NSSI sont des qualifications qui sont conçues pour être très équilibrées et très souples. Et contrairement à ce que ceux qui n'ont pas pris, pas eu le temps de lire comment elles fonctionnent, elles sont accessibles à des petites entreprises. Donc aujourd'hui, le PACI étant accessible à des PME, PMI, il n'est pas du tout un frein ni ce qui va provoquer la structuration du marché. En tout cas, pas pour les prestations d'audit de sécurité. Après, si tu vas dans des prestations de réponse à incidents, des prestations de surveillance, de supervision, il est de toutes les manières évident qu'il n'y a pas la place pour 50, qu'il y a un investissement au départ qui est tel qu'il ne peut pas y avoir un nombre infini d'acteurs. Par contre, aujourd'hui, il y a 17 sociétés dans le PACI. Donc, je rappelle, le PACI est quand même lié à la société. Donc, HSC et Deloitte, ça reste deux sociétés dans le PACI. Donc, 17 sociétés dans le PACI. Moi, j'en ai vu 23 ou 27 qui ont entamé les démarches et fait leurs dossiers. Donc, de toutes les manières, voilà, on aura une trentaine de sociétés de sécurité à terme qui seront dans le PACI et les gens pourront faire leur choix sans aucune difficulté. Il y en aura beaucoup moins dans d'autres domaines, ce qui est tout à fait logique, mais c'est pas ça qui va forcer la structuration du marché.
Ouais, pardon, je voyais plutôt effectivement, je suis d'accord avec toi, je voyais plutôt le PACI comme disons, un instrument de valorisation pour de la PME.
Le PACI est effectivement un instrument de valorisation pour les PME, par lequel toutes les sociétés plus importantes sont également passées. Bon, nous, on a toujours travaillé pour le secteur public. Hein. Donc, pour le secteur public, pour nous, c'était cohérent de se lancer dans le PACI. On a toujours fait du RGS, des choses comme ça. Là, maintenant, ça va aussi être utile pour les opérateurs d'importance vitale. Bon, ben, comme nous, on a toujours fait de la sécurité des systèmes industriels, des choses de ce genre-là, bah, et c'était évident qu'il fallait être dans le PACI. Et les autres ont raisonné de la même manière que moi. Et ceux qui étaient opposés au PACI au début du PACI ont complètement changé d'avis et sont très contents aujourd'hui d'avoir des marchés importants avec des gens qui exigent des prestataires PACI.
Ouais, bon, enfin, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça, quand même, ça tuait tout un tas de micro-sociétés, de gens qui travaillaient très bien, mais qui, finalement, ne pouvaient quand même pas aller faire du PACI.
Tu l'as entendu dire, mais personne ne l'a jamais dit publiquement. Et ceux qui le diraient publiquement, je suis à disposition pour leur expliquer pourquoi ils se trompent et pourquoi ils n'ont pas regardé. Maintenant, moi, je connais énormément de contre-exemples dans ceux qui ont aujourd'hui choisi de ne pas faire le PACI. Eh bien, je connais des PME qui font énormément d'argent avec d'autres types de prestations qui rapportent beaucoup et qui font qu'ils n'ont absolument aucun intérêt et aucun besoin de faire le PACI. Donc, il ne faut pas confondre. Il y a des gens qui, parfois, peuvent un peu dénigrer le PACI simplement parce qu'ils n'en ont absolument pas besoin. Mais sincèrement, je n'ai jamais entendu ces « oui » dire. Ou alors, sinon, il faut citer tes sources et je te donnerai l'explication.
Bah, écoute, ouais, alors on peut pas trop citer de marque, hein, sinon on va se faire taper sur les doigts par Johan, mais je connais une boîte où il y a un mec qui travaille depuis 10 ans avec des clients institutionnels de la main à la main, on va dire, parce qu'ils ont confiance. Et aujourd'hui, sur certains sujets, ça devient compliqué travailler puisque le RGS t'incite quand même fortement à prendre des prestataires passifs, quoi. C'est des sortes de régies cachées, quoi, où tu travailles avec le même prestataire depuis 10 ans, mais il n'a jamais été embauché, il n'est même pas contractuel de la fonction publique, quoi.
Officiellement, il n'existe pas de régie dans la fonction publique, dans le secteur public.
Ok.
Donc là, tu parles de gens qui sont dans l'illégalité depuis de très nombreuses années.
Tu as eu raison de ne pas citer de
nom. Ouais, on va pas citer de nom.
Et c'est d'autant plus qu'en tant qu'expert de justice, je ne vais certainement jamais prendre le risque de perdre ce statut en ne respectant pas scrupuleusement toutes les lois.
Ouais, tu sais, l'État n'est pas forcément le premier à respecter toutes les lois, mais.
Je suis aussi parfois pas du tout d'accord avec certaines lois. Vous savez que nous sommes un jour particulier et peut-être sombre pour notre société, et je les respecte quand même.
Oui, non, mais je n'ai aucun doute sur le fait que tu respectes la loi. Et d'ailleurs, toi, tu es contrôlé régulièrement par tout un tas d'organismes. Mais je dis juste que l'État n'est pas.
Alors, je ne suis pas tellement contrôlé puisque la première fois que bon, j'ai été contrôlé par l'URSSAF, par les impôts, par effectivement, mais la première fois que j'ai été vraiment audité en sécurité, c'est grâce au PACI. C'est-à-dire, c'est grâce au PACI que pour la première fois, donc à l'époque, ça faisait quand même presque 25 ans de prestations en sécurité, pour la première fois, quelqu'un est venu auditer ma propre sécurité. Tous les clients m'avaient fait confiance depuis 25 ans et beaucoup avaient mis dans les contrats qu'ils avaient la possibilité de venir m'auditer, mais aucun l'avait fait. Et donc, lorsque la NSSI est venue m'auditer, c'était la première fois que ma sécurité était auditée.
Est-ce que
Moi,
c'est pas
je suis toujours audité avec la présence de la NSSI.
est-ce que c'est pas un glissement justement de la confiance vers la compliance? Parce qu'avant les gens ils travaillaient avec quelqu'un parce qu'ils avaient confiance, maintenant ils travaillent avec quelqu'un qu'ils connaissent pas juste parce qu'il est sur une liste.
Alors, est-ce que la question, c'est le PACI et de la conformité? Non, le PACI n'est pas de la conformité, parce que même si on peut peut-être mettre en cause des petits examens écrits rapides, derrière, il y a un oral pour chaque consultant qui veut être dans le PACI, et l'oral permet de débroussailler si la personne a bien ou mal répondu à l'écrit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, je pense que ça a été conçu pour éviter les travers de la conformité au niveau des contrôles, des connaissances et de la maîtrise des processus par les personnes. Après, sur l'audit sur site ou sur l'audit de démonstration où tu es observé pendant que tu es en procédure d'audit, mais ça, ce sont des processus dans lesquels tu ne peux vraiment pas tricher et donc on n'est pas du tout dans de la conformité.
Donc tu penses que tous les gens qui sont dans la liste sont dignes de confiance et enfin dignes de confiance certainement puisqu'ils sont tous cyber souverains au possible, mais ils sont tous
Alors,
de bonne qualité et vont
là, tu
forcément.
fais une erreur. Hein, n'oublie pas, le PACI, il est restreint à un petit groupe de personnes qui travaillent sur un réseau dont la sécurité a été auditée. Or, quand une société est inscrite, pour être inscrite dans une catégorie, il lui suffit d'avoir un auditeur dans cette catégorie. Si tu as un très très bon auditeur très expérimenté, il peut à lui tout seul avoir réussi tous les examens et te permettre d'être inscrit dans toutes les catégories. Donc là, c'est à toi, dans ton appel d'offres, de bien demander des auditeurs PACI et de bénéficier d'un audit PACI. Sinon, tu bénéficieras d'une société tout ce qui est de plus lambda. Et ça, c'est un point intéressant, puisqu'il y a des sociétés, évidemment comme la mienne, qui, pour ne pas se casser la tête dans la gestion des emplois du temps, ont fait passer au PACI la totalité de l'équipe, donc il n'y a que les derniers arrivés qui ne sont pas encore PACI. Et puis, pour une raison technique, malheureusement, moi, personnellement, je suis sorti du PACI simplement parce que je suis le seul chez HSC qui n'est plus dans HSC, parce que je ne suis pas salarié d'HSC. Je suis salarié Deloitte en tant que directeur général d'HSC, alors qu'avant j'étais gérant majoritaire. Donc à cause de ce petit problème technique, je suis sorti de PCI DSS, je suis sorti du PACI, mais en dehors de moi, tous les consultants sont PACI. Il y a d'autres sociétés qui ont choisi que d'avoir un seul consultant ou un pentester, un auditeur organisationnel dans le PACI. Donc, rien ne dit que tu vas bénéficier ni de l'infrastructure PACI, ni d'un auditeur PACI quand tu achètes une prestation auprès de cette société. C'est à toi de le demander et de le vérifier explicitement. Il faut toujours faire preuve de discernement en sécurité.
Tu veux dire que si une des six sociétés officiellement PACI à l'heure actuelle était victime d'un incident de sécurité grave, ce serait pas grave pour ses clients parce qu'ils travaillent sur un réseau isolé et que les données des clients sont en sécurité.
Écoute, clairement, tu peux faire des prestations non PACI sur un réseau non PACI et tu fais des prestations PACI sur un réseau PACI. Je rappelle quand même que le PACI, c'est diffusion restreinte, hein. Donc, allez lire la nouvelle IGI et puis ça vous donnera une idée des règles de sécurité à appliquer.
Ok.
Ok. Hervé, pour terminer peut-être, comment est-ce que tu vois l'évolution de cet écosystème de la sécurité, des problématiques de sécurité?
Il y aura toujours des comptes guests dans 10 ans. Ouais, je crois qu'on l'a perdu, non?
Hervé?
Non, je suis là.
Pensez qu'il...
Non, mais ça vaut très cher, ça.
Ah oui, tu veux dire que c'est les Magic Cadrans de la boîte qui commence par G et que ça s'achète très cher.
Ah ben, d'après cette société qui commence par G, Deloitte est le numéro un mondial de la cyber security, hein, comme ils disent. Et donc... je compte bien contribuer à ce qu'il le soit de plus en plus et qu'il le devienne en France. Non, mais tu sais, l'évolution, bon oui, Buchnayer dit on va vers la réponse aux incidents, il faut former mieux des gens à la défense. Moi je pense que voilà, on reviendra aux fondamentaux. Pourquoi moi je me suis lancé dans la formation? Parce que je reconnais, c'est pas récurrent comme d'offrir de l'infogérance de produits de sécurité ou de la supervision ou des services de réponse à incidents, du CERT, du SOC, enfin toutes ces choses-là qui sont sur abonnement. Mais je reste persuadé que la base pour améliorer la sécurité, c'est d'améliorer la formation des ingénieurs sécurité, des exploitants et des informaticiens en général, des développeurs. Et j'y crois tellement que je continue à me passionner pour la formation, parce que ça me semble le sujet de base. La formation, on en faisait dans d'autres secteurs il y a un siècle, on en fera toujours dans un siècle.
Est-ce que tu penses, Hervé, qu'il y a un début de collaboration? Moi, c'est un truc que je vois émerger depuis quelques temps, c'est une collaboration des gens qui font la défense. Ce qui n'était pour moi pas le cas il y a quelques années. Est-ce que tu le sens arriver aussi?
La collaboration entre ceux qui font de la défense est encore très complexe. Il y a des aspects concurrence qui nuisent, je pense, encore de manière assez importante pour ce type de collaboration. Maintenant, je ne suis pas nécessairement... le plus à même pour en parler, mais je vois notre politique de partage de connaissances dans l'investigation numérique, par exemple, avec des formations, etc. Ça n'est pas encore une pratique complètement généralisée. Entre les différents CERT, il y a parfois de la concurrence et du savoir-faire. Maintenant, on a vu au travers de présentations de très nombreux outils libres ces derniers temps qu'il y avait du partage. Bon, alors quand il y a un partage par un CERT d'une grande banque, bon, ben oui, effectivement, de toute façon, c'est pas leur business. Maintenant, est-ce que tous les certes commerciaux partagent tout? Non, ils partagent pas tout. Et donc, il faut bien se différencier par rapport au concurrent d'en face. Si le concurrent d'en face, il est à l'autre bout de la planète, on s'en moque. Mais si le concurrent d'en face, il est dans le même pays, on s'en moque pas du tout. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions pour résoudre ça? Ça, c'est toujours l'équilibre entre concurrence et collaboration. On développe des tas de choses en commun au travers des associations entre concurrents parce que c'est l'intérêt commun du marché, l'intérêt commun pour faire avancer la sécurité. Si jamais il y a un savoir-faire à un moment donné qui est un différenciateur, il ne sera pas mis dans le pot commun.
Mais clairement, le partage des IOC, c'est un sujet très très chaud et les étatiques sont pour et les industriels sont contre. Donc, c'est aussi simple que ça, quoi.
Les intérêts de l'État ne sont pas nécessairement ceux de la société qui ne sont pas ceux des entreprises à but lucratif. Mais ça, c'est pas de la sécurité.
Hein. Ouais, on pourrait te poser la dernière question. C'est est-ce que c'est toi qui as inventé le proxy ou...
Oui, absolument. Avec Christophe Wolfugel, on a eu un contrat du CNES en 91, à l'issue duquel, pour trouver une solution pour interconnecter le CNES en TCP/IP au réseau externe, d'un côté une liaison NASA et de l'autre un projet d'une plaque particulière des réseaux Renater, on a proposé cette idée d'un logiciel qui fasse client d'un côté, serveur de l'autre. Alors, ce n'est pas innovant dans le sens où il y a déjà des gens qui avaient développé cette forme de logiciel, notamment chez UNET, à des fins de répartition de charges dans le contexte de l'époque. Nous sommes les premiers à l'avoir fait avec des capacités de journalisation, d'authentification dans le relais à la fois sur Telnet et FTP. On l'a mis en production en 92, présenté en juin 92 alors que c'était déjà en production ou juillet 92 à Usenix Security aux US. Donc je peux te redonner les dates de publication dans les news du sieur Marcus et tu verras que il était encore dans ses stages et qu'il a été chez Digital qu'après. Non, c'était en septembre 92 qu'on l'a présenté. Et quand on l'a présenté en septembre 92, effectivement, dans la salle, Digital a dit qu'il allait faire la même chose. Voilà. Et le TIS Firewall Toolkit, tu parles, il est sorti un ou deux ans après. Donc, oui, tout à fait. Alors, maintenant, la vraie question, c'est pourquoi je ne l'ai pas breveté? Ben, moi et Christophe, de toutes les manières, le brevet aurait appartenu au CNES, à l'Agence française de l'espace, hein, et pas à nous, parce que c'était sur un contrat du CNES, mais ça ne nous était pas venu à l'esprit et on l'a mis en diffusion libre. Par la même occasion, dans le même papier donc de septembre 92, on est aussi les premiers à avoir fait un double DNS, hein, avec un DNS privé, un DNS public. Hein. Mais bon, c'est normal, hein, on est les premiers à avoir mis une institution qui doit faire très attention à la sécurité en ligne sur Internet. Bon, ben voilà. 91-92.
Tu parles de Network Security Master ?
Alors, c'est tout à fait. Les relais en question sont ceux qui sont devenus beaucoup plus tard, quand je les ai cédés, qui ont changé de nom, qui sont appelés Network Security Master, et dont Network Security Master, tu connais la suite. Hein. Voilà.
Oui, puisque pour les auditeurs, Network Security Master a été le point de départ de NUEW, le parfois authentifiant que j'ai développé de 2004 à 2010.
Ah, merci pour cette précision, Eric.
Puisqu'on avait tenté de récupérer le code de Hervé avec des collègues, tant bien que mal, on s'est dit, on pourrait peut-être faire mieux maintenant. J'arrête. Il y avait vraiment des trucs bien dans Network Security Master, c'était vraiment sympa sur certains points.
Ah, on avait quand même réussi à porter des protocoles improbables comme X11, vraiment des trucs incroyables. Mais bon, c'est une autre époque.
Bon, Hervé, merci beaucoup pour ta participation.
Merci pour votre invitation.
On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.
Au revoir.